France Inter. .fr.
Bonjour, c'est Adrien Bosque, l'invité de Vous avez dit classique aujourd'hui. Écrivain et éditeur, il a à tout juste 30 ans déjà mis en place sa propre maison d'édition, les éditions du Sous-Sol, un magazine trimestriel épais comme un livre qui s'appelle Feuilleton, dans lequel il prône le journalisme narratif, et était nommé cette année directeur adjoint de l'édition Au Seuil. Un jeune homme qui a le goût des textes, des lettres et de la narration depuis son enfance, pendant laquelle il a correspondu avec sa grand-mère qui n'habitait pas, comme lui, à Avignon, mais Montpellier. Son premier et unique roman pour le moment, couronné du Grand Prix de l'Académie française Constellation, évoque le crash du 27 octobre 1949 dans lequel périrent 48 passagers, parmi lesquels Marcel Cerdan et la violoniste Ginette Deveu. Mené comme une enquête, son roman retrace une époque où la France était autre, pleine d'espoir en l'avenir, bien qu'abîmée par la guerre. Il y dresse des correspondances entre Bachung, Gainsbourg, Jacques Chancel et son grand échiquier, Jean Giono, et puis bien sûr Piaf, puisque Marcel Cerdan était dans cet avion pour rejoindre sa maîtresse, Edith Piaf, à Manhattan. Il est avec nous jusqu'à 17h pour nous faire découvrir ses goûts musicaux classiques. Alors, en a-t-il écouté autant qu'il a lu de livres? Réponse pendant cette heure. Bonjour Adrien Bosque.
Bonjour Elsa Boubli.
Quand on vous lit, on se dit que vous avez toujours beaucoup lu. C'est plein de références littéraires, Constellation. Alors du coup, je me disais, ça laisse peut-être un peu moins de place à la musique, à moins que vous soyez hyper actif.
Les références ne sont pas forcément toutes les lectures. Parfois, elles cachent des bibliothèques. Mais en tout cas, dans mon cas, oui, la lecture a toujours été au centre. Et elle le reste, puisque j'en ai fait en partie mon métier. La musique l'accompagne et je dirais plutôt que c'est une écoute distractive, mélomane, mais vraiment, en tout cas, pas forcément aussi précis que pour la lecture ou pour l'écriture, mais ça tient une importance au point que dans ce premier livre, finalement, les références musicales soient nombreuses, comme vous l'avez signalé, et que finalement le violon soit au centre de ce livre, oui. et une violoniste. Ce qu'on pourrait qualifier d'une héroïne.
On va l'écouter tout à l'heure, bien sûr, Ginette Neveu, puisqu'elle a disparu lors de ce vol, mais qu'elle avait eu le temps d'enregistrer de belles choses déjà. On va entendre à quel point elle était présente par son jeu, oui. et sa façon de tenir le violon. Mais je vous propose d'entrer dans la musique par la littérature, puisque vous êtes un littéraire. On va écouter la sonate romantique par excellence, le chef-d'œuvre incontestable de la musique de chambre française du 19e siècle, et qui doit en partie sa célébrité à la petite phrase de la sonate de Vinteuil évoquée par Marcel Proust dans Du côté de chez Swann. Comme je sais que vous aimez Proust, eh bien, c'est bien pour commencer avec vous. Proust disait cette fois, Swann avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien d'autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. Il s'agit de la sonate pour violon et piano de César Franck, très très connue, avec ce thème qui ressemble à une cellule cyclique qui se répète inlassablement et qui est vraiment les prémices d'une nouvelle écriture. La voici interprétée par Martha Argerich au piano et Ivry Gitlis au violon, une interprétation très insolite qui, j'espère, vous plaira. Thank you. La sonate pour violon et piano, l'Allegretto ben moderato, interprétée par Martha Argerich au piano et Ivry Gitlis au violon, une interprétation presque libre de la part d'Ivry Gitlis. Pour commencer avec vous, Adrien Bosque, pour entamer justement votre passion pour la musique, parce qu'elle est là quand même, à travers cette passion pour la littérature, on dirait que le fait d'avoir eu un père architecte comme ça vous a ouvert une voie vers simplement la passion de l'art au départ.
Je ne sais pas si c'est parce que sinon tout serait lié au métier de nos parents et ça serait dommage, parce que je pense qu'il y a des destins tout à fait différents du métier de la carrière de ses propres parents, mais en tout cas la bibliothèque était quelque chose d'important, tout comme la musique, et c'est toujours plus simple dans ces cas-là d'y entrer et d'en faire son propre chemin. Cette interprétation, enfin, c'était très agréable de l'entendre, très libre comme vous le disiez. Moi, j'aime beaucoup justement ces interprétations qui sortent, qui sont moins celles des puristes.
C'est apparemment ce que vous avez choisi de faire dans vos éditions Sous-sol d'ailleurs.
Hein. Les éditions du Sous-sol sont un petit peu, oui, prennent des chemins de traverse, on va
marge,
dire.
Oui.
C'est une maison d'édition qui a été fondée il y a 5 ans et qui tout de suite, en tout cas, s'est posé comme une maison qui ne ferait pas la même chose, qui essaierait de trouver sa ligne éditoriale. Et sa ligne, elle était assez précise. En tout cas, c'était ma volonté, savoir de faire traduire, de populariser une forme de journalisme qu'on dit narratif aux États-Unis et qui est une différence avec le journalisme à la française, un peu objectif, qui est d'embarquer le lecteur, de raconter une histoire, d'y être de plein pied. Donc les éditions du Sous-sol sont nées autour de feuilletons qui publiaient ces reportages qu'on trouve dans le New Yorker, dans Harper's, et qui ont à voir avec tous les domaines. Vous pouvez avoir comme ça une grande revue généraliste, y compris de la musique racontée de cette manière.
Ouais, Daniel Filipacchi le faisait très bien,
voilà,
en son temps. Pour revenir à cette interprétation par Ivry Gitlis et Martha Argerich, ce qui vous plaisait, donc, c'était cette façon d'être un petit peu...
Oui, et puis je vous disais, pendant la musique, ça me rappelait, parce qu'on parlait du grand échiquier tout à l'heure, les interprétations d'Ivry Gitlis, parce qu'il faisait partie des participants récurrents. Il y avait quand même quelques-uns qu'on voyait revenir à... quasiment à chaque fois. Et Ivry Gitlis, je me rappelle, j'ai pas vu les images,
oui,
parce qu'à l'époque...
C'est ce que j'allais vous dire, vous avez mis en 86.
Mais j'ai pu regarder les vidéos, et je me rappelle d'une vidéo d'un duo entre lui et Ferré, qui était...
Léo Ferré.
On ne savait pas lequel des deux était le plus, finalement, le plus éloigné, le plus dans une bulle musicale. Et ça reste une des belles interprétations. Et puis c'est très bien de commencer effectivement par ce lien à Proust qui est, en tout cas moi qui a été fondateur, plutôt du côté, non pas de Swann, mais enfin plus loin, avec Albertine, et Albertine disparue.
On va pouvoir peut-être en reparler. On va néanmoins poursuivre avec les trois beaux oiseaux du paradis de Ravel. Ce sont en fait trois chansons et que vous avez découvert. Alors là, j'adore aussi parce que vous parlez du grand échiquier, c'est la télévision. Eh bien, encore la télévision, puisque c'est une série télévisée de 1971 signée Maurice Pialat.
Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange à coller les deux. Ça donne l'impression plutôt de quelqu'un qui vient vous parler d'une mémoire télévisuelle. Alors c'est peut-être ça.
En tout cas, c'est votre première découverte musicale.
Oui, et alors j'étais pas né non plus, mais c'est un DVD. Vous avez les œuvres complètes, on va dire, de Maurice Pialat, le coffret complet, et j'ai découvert à cette occasion, en fouillant dans ce coffret, enfin une série que je n'avais pas vue, enfin les puristes eux l'ont vue, qui est La Maison des Bois, et qui est pour moi le chef-d'œuvre méconnu, le chef-d'œuvre caché de Maurice Pialat, qui est une série au sens vraiment plein du terme, presque de nos jours, on pourrait continuer, parce qu'il y a bien 7 épisodes, 7 longs épisodes, et toujours cette même musique qui démarre donc à la manière d'un générique et qui reste envoûtante, entêtante, comme certaines séries dont vous avez presque envie plutôt de vous débarrasser de cet air qui vous obsède après l'avoir visionné, et qui donne l'impression quand on les enchaîne les unes après les autres que ça ne s'arrête pas. Mais là, dans ce cas-là, c'est une mélodie pour un chœur a cappella de Ravel qui est très étonnant, enfin que je ne connaissais pas.
Alors, La Maison des Bois, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale,
oui.
Et Maurice Pialat, qui est bien informé et grand mélomane, avait choisi donc d'utiliser utiliser cette chanson de Ravel, puisque Ravel rêvait de partir au front pendant la Première Guerre mondiale, mais son poids-plume l'en a empêché. Il a fini par se faire engager en 1916 au volant d'un camion militaire. Mais en tout cas, ces trois beaux oiseaux du paradis, composés en 1914-1915, c'est la poétisation du drapeau français à travers les oiseaux. En voici donc ces trois beaux oiseaux du paradis par le chœur Accentus sous la direction de Laurence Equilbé. Trois beaux oiseaux du paradis, on l'entendait, hein, chanté de Maurice Ravel par le chœur Accentus sous la direction de Laurence Equilbé. Ça vous a renvoyé complètement à cette série télévisée de Maurice Pial. Hein. Vous disiez ça marche.
Ah oui, ça marche très bien. Puis c'est une sublime. C'est un film absolument incroyable parce que ça raconte finalement ce qui est apparent mais qui n'est jamais raconté, le quotidien des enfants pendant la guerre. Quotidien des délaissés qui sont envoyés par les parents parisiens dans une maison des bois, justement, chez un garde-chasse. Et c'est toute cette atmosphère. Alors, on voit bien chez Piala l'obsession de la peinture, lui, derrière le film, une vocation perdue, d'une succession de tableaux, histoire et prétexte, et ce sont des successions de tableaux. Et dans ce cas-là, évidemment, comme vous le disiez bien, la référence à Ravel, là, elle est très précise sur la Première Guerre mondiale, sur le patriotisme peut-être pompier un peu de Ravel, mais qui, je trouve assez élégant, parce qu'il y a une sorte de retour aux chansons de la Renaissance, à l'harmonie simple et pastorale. Et dans ce cas-là, d'une histoire un peu simplette, mais très, très jolie, de ces trois oiseaux qui viennent annoncer la mort de l'aimé à une jeune femme qui est loin du front.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Adrien Bosque, on va faire un saut musical de 55 ans à peu près, puisqu'on va arriver au début des années 70, c'est devenu un grand classique. On va écouter Nina Simone qui chante Black is the Color of My True Love's Hair, qui fait partie de vos premiers émois musicaux, je crois. Et pour remettre le contexte, vous pourrez nous dire pourquoi c'est un émoi pour vous. Mais à la fin des années 60, Nina Simone dit « Je voyais deux visages dans le miroir, l'un reflétait ma fierté d'avoir la peau noire et d'être une femme, l'autre la conviction que c'était ma couleur et mon sexe qui avaient tout foutu en l'air dès le départ, qui vont l'inciter, ces réflexions, à composer cette chanson qui est une chanson engagée, totalement engagée. Pourquoi est-ce une référence musicale, un premier émoi musical pour vous, Adrien Bosque ?
Alors j'ai mal compris la demande initiale, mais c'est un émoi, je ne sais pas si c'est le premier. Non, je vous le dis, ce n'est pas le premier musical, mais elle m'a infiniment touché pour plusieurs raisons. C'est parce que j'ai été surpris par l'interprétation de cette chanson qui démarre, enfin qui a deux démarrages presque. Vous avez comme ça au piano, alors on sait toute l'histoire et ce que vous venez de raconter de Nina Simone, mais aussi de sa vocation cassée pour la musique classique, on le sait. Et finalement, ça a pris sa revanche comme des petites intrusions classiques à l'intérieur de ces morceaux.
Et de ces jeux pianistiques.
Voilà, et là c'est exactement le cas au début. Et puis, peu à peu, laisse place au piano, la guitare sèche et un autre interprète, une autre voix. Et on a l'impression d'un dialogue entre deux aimés. C'est une chanson que je trouve absolument incroyable. Je me lasse pas et dont on a du mal à sonder toutes les nuances.
Et pendant le solo de guitare, elle est toute timide, elle apparaît vraiment par touche.
Oui, je vous conseille la vidéo du concert.
Eh bien, on l'écoute déjà pour la radio, c'est pas mal.
I love the ground on where I goes, and still I hope that the time will come. Oh, I hope that the time will come when he and I will be as one. When he and I will be. So black is the color of my true love's hair. Black is the color of my true love's hair. Black is the color of my love so fair. Black is her body, so firm, so bold. Black is her beauty, her soul of gold. I carry my love in my heart. Everywhere. And no matter where I go, she is always there.
Black is the color of my true love's hair. Nina Simone, accompagnée par Émile Latimer sur la suite. Une drôle de rencontre très magique et qui nous fait entendre aussi à quel point, selon la personne avec laquelle on collabore, ça n'aboutit pas au même résultat. C'est un peu comme exactement dans le travail d'écriture et d'édition, j'imagine.
En tout cas, d'édition, c'est certain. Oui. D'édition, oui, il y a des collaborations désastreuses, comme d'autres vraiment fructueuses et avec lesquelles on peut construire des catalogues, des lignes et des lignes croisées, qui est beaucoup plus intéressant que sa seule vision sans interrogation.
Vous avez quasiment toujours su que vous vouliez devenir éditeur. Apparemment, vous avez fait des classes prépa et puis...
Pas vraiment, mais je faisais le parcours classique sans m'en rendre compte, mais que font à peu près tous les élèves à peu près littéraires, à savoir s'engouffrer vers l'enseignement sans s'en rendre compte, c'est-à-dire faire une prépa, faire aller en faculté, passer d'un mémoire à un autre, et puis peu à peu se retrouver acculé à passer le CAPES et l'agrégation. Et je savais que je n'avais aucune vocation à enseigner et que j'avais des souvenirs désastreux de professeurs sans vocation. D'autres passionnés savaient transmettre, mais je me rappelle d'avoir décelé chez certains véritablement la rancœur et le regret d'enseigner à d'affreux gamins. Et donc je souhaitais pas reproduire la même chose, et l'édition a cet avantage de vous permettre d'être tout à fait littéraire, de garder que vos études soient à peu près utiles, et en même temps d'être de plein pied dans une activité de tous les jours qui va de la fabrication à l'économique, en tout cas quand vous montez une maison.
Alors à 22 ans, vous vous retrouvez sous l'aile de Gérard Bérébi, les éditions Alia. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait?
Gérard Bérébi éditait à l'époque mon frère aîné.
David Bosque.
Voilà. Il a publié ses deux premiers livres, Sanglier et Milo, et puis aussi ses traductions, les traductions de la correspondance de Swift et le texte de Campana, Les Chants Orphiques. Et on s'est rencontrés à cette occasion, on a plutôt sympathisé, et je suis allé faire un stage chez lui à ce moment-là. J'étais un grand lecteur des éditions Alia, comme je pense d'autres de mon âge.
C'est pas cher et on apprend plein de choses.
On apprend plein de choses, la ligne n'est jamais désignée, on se sent plutôt libre, mais on sait que n'importe quel livre pioché a à peu près une valeur certaine. Et surtout, et là pour une émission comme celle-là, surtout pour la partie musicale.
Absolument.
La collection est autour de cette forme de journalisme, de rock critique américain, mais ça ne s'arrête pas qu'au rock critique, puisqu'il a pu éditer les textes de John Cage, comme ceux de Bertrand Schaeffer pour la Maison Ronde, et j'ai beaucoup appris à ses côtés.
Et comme rocker né, voici Glenn Gould, qui a été aussi visible aux éditions Alia. C'est pas un rocker, mais il avait quelque chose quand même de très iconoclaste. Voici les variations Goldberg 3-4 de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould. Variation 3, 4, 5, 6 de Jean-Sébastien Bach, donc les variations Goldberg, interprétées par Glenn Gould au piano dans la version 1982, avec vous, Adrien Bosque, puisque vous avez sans doute mieux découvert à l'époque où vous travailliez chez Alia, puisque il y a un très beau livre, tout petit, et c'est ça aussi qui est bien avec cette édition, c'est que ça se met dans la poche. Glenn Gould, par Glenn Gould, sur Glenn Gould. C'est peut-être à cette occasion que vous l'avez mieux rencontré, j'imagine.
Je pense que vous l'avez entendu mille fois ici, les variations, mais je l'ai écouté, puis sans doute de manière répétitive, en travaillant, et puis j'ai toujours été, mais c'est une figure très littéraire, Glenn Gould, hein, il a une obsession comme ça autour de sa figure, puis de l'enregistrement et du concert, fameuse dichotomie, mais... Gérard Bérébi, donc c'est aux éditions Alia, l'a sorti bien plus tard. Il s'agit d'un texte un peu étrange quand même, où Glenn Gould, je crois, refusant la plupart des interviews, on est venu à dire à ce magazine, dont je ne me souviens pas du nom, quitte à faire une interview, je vais la faire, je vais répondre à mes propres questions et je vous enverrai le résultat. Et donc Bérébi a publié ça sous le titre Glenn Gould, par Glenn Gould, sur Glenn Gould. Et vous avez des réponses, c'est hilarant. Et toute une discussion entre Glenn Gould et Glenn Gould au début pour savoir ce qui est un bon sujet. Il parle de ses coups de froid lors des concerts, enfin c'est très drôle.
Interview parue en 1974 dans High Fidelity. Fidelity.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors on va maintenant écouter un mélange ambigu de prière et d'humour. Hein. Ce sont les Gnossiennes d'Eric Satie, qui sont les premières œuvres de Satie, pourvues de barres de mesure. C'est au pianiste de mettre lui-même les barres, un peu comme s'il n'y avait pas de ponctuation à une phrase. J'imagine que pour un éditeur, c'est savoureux, ce genre de partition musicale, Adrien Bosque.
Oui, puis je me rends compte avec les choix que c'est toujours... D'ailleurs, c'est toujours à peu près les mêmes périodes, fin 19e,
oui,
début 20e.
Oui, visiblement, ça vous passionne. Hein.
Oui, mais c'est littérairement aussi... Les recoupements, je pense, n'ont jamais été aussi nombreux qu'à cette époque. Hein. C'était une période de dialogue très fort.
Entre les arts.
Et puis, je me rends compte d'une espèce de continuité dans les arabesques, dans les petites touches, dans les variations. Et évidemment, les Gnossiennes... en font partie.
C'est votre Madeleine de Proust à vous, c'est ça?
Un peu, oui. Oui, il y a de ça.
On va l'écouter, évidemment, il faut penser aux indications d'Eric Satie qui n'hésitait pas à mettre des phrases entières pour indiquer quel sens prendre dans la musique.
Thank you.
la première gnossienne d'Éric Satie, interprétée par Daniel Varsano au piano, qui nous engage directement, Adrien Bosque, vers l'écriture, puisque Éric Satie n'hésitait pas à écrire lui-même des textes pour indiquer comment jouer cette gnossienne, et on l'entend bien ici avec toutes les nuances qu'il y a. Est-ce que on peut envisager, Adrien Bosque, l'écriture d'un roman, comme vous l'avez fait dans Constellation, différemment de ce que l'on aime publier soi-même? En tout cas, c'est l'impression que vous donnez, vous.
Je pense qu'on a, en tout cas dans mon cas, oui, ça s'est avéré un temps volé aussi à l'agenda, à l'utile, donc peut-être que je suis allé m'engouffrer sur exactement ce qui n'était pas finalement publié par la maison. Après, on y voit forcément des liens, et je pense que dans mon cas, c'est ce qu'on peut appeler une littérature du réel, usée de faits réels.
Et puis il y a l'enquête, il y a un côté journalistique aussi.
Voilà, complètement.
Aussi.
L'idée que de l'enquête, des faits réels, on peut faire émerger un roman, et ça j'y tiens, par l'agencement, par l'angle pris, et puis par l'écriture elle-même, et la manière dont le roman s'avance.
Alors, deux personnages importants, Marcel Cerdan, mais également Ginette Neveu, violoniste regrettée, dont la mère disait qu'elle ignorait la comédie, le maquillage, les compromissions. Elle lui rend un très bel hommage dans un album posthume, hein, dont on va écouter un extrait. On va écouter Brahms, le concerto en ré majeur. Vous, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez appris à connaître ou que vous connaissiez déjà, Ginette Neveu?
Je connaissais certaines interprétations, et puis pour ceux qui s'en souviennent, mais c'est une ligne parmi des centaines, chez Pérec, il y a « Je me souviens que » et parmi les « Je me souviens », vous avez « Je me souviens que Marcel Cerdan est mort dans le même avion que Ginette Neveu ». Et cette phrase-là qui les unit comme deux étoiles plus brillantes, finalement, puisque au lendemain du crash, ce sont ces deux célébrités que l'on retrouve dans les journaux, avec une part bien évidemment plus importante pour Cerdan à l'époque. Mais il faut se rendre compte de l'importance de Neveu aussi dans l'histoire de la musique et dans cette après-guerre où elle représente, on l'appelle le Mozart en jupon.
Sa mère finit le texte en disant « Ta voix s'est tue à jamais, mais puisse ta vie servir d'encouragement à tous ceux qui, comme toi, croyaient à la grandeur et à la beauté. » concerto en ré majeur opus 77 de Johannes Brahms dans son troisième mouvement Allegro giocoso ma non troppo. C'est Ginette Neveu qui est au violon et avec l'Orchestre National de France sous la direction de Roger Desormière. On entend cet engagement qu'a Ginette Neveu dans cette pièce qui illustre bien peut-être la femme que c'était, cette femme qui cherchait absolument d'abord à faire vivre ses émotions. Vous en parlez beaucoup dans Constellation, mais dans Constellation, en fait, vous tissez des liens, beaucoup de liens entre les gens, les choses. Enfin, on dirait que presque tout fait sens d'une certaine manière, selon vous.
Ah, c'est là la différence avec un livre d'histoire ou de journaliste qui aurait une ambition d'exhaustivité. Là, ça n'est absolument pas le propos du livre. Le livre est de refaire sens de l'histoire, un sens qui est forcément subjectif, celui de l'écrivain, qui vient tisser des liens qui n'ont pas de réalité. Ce sont des faisceaux de correspondance, de ce qu'on peut appeler des hasards objectifs. Dans ce cas précis de Ginette Neveu, vous en avez plusieurs, mais le fait même que les corps du Constellation reviennent le jour même où Kathleen Ferrier pour la première fois chante à Paris et que à la même heure qu'on puisse l'interpréter comme une messe de requiem, comme un requiem, finalement vous avez ces faisceaux qui n'ont de sens comme, et c'est là le titre du roman qui au-delà du nom même de l'avion signale ces points reliés dans le ciel presque comme ces cahiers de coloriage pour enfants et ces traits qui n'ont pas d'existence avant même que l'œil humain vienne les relier. Et dans le cas de la grande chance finalement de ce livre et d'avoir ce personnage hors du commun qu'est Ginette Neveu, qui est une volonté en acte, comme disait je crois sa mère, qui avait effectivement ses interprétations. On racontait qu'elle saignait même, qu'elle venait à se blesser. Ses interprétations, en tout cas de Ravel par exemple, restent parmi les plus belles. Et elle avait, on l'a un peu oublié, c'était à la fois un génie, mais un génie aussi en précocité. Elle avait des records et des records, même si on n'est pas dans un concours hippique de précocité, dont ce fameux concours Wieniawski qu'elle avait remporté à 14 ans face à Oistrakh. Donc c'était quelqu'un. Et quelqu'un aussi, et c'est là la grande découverte pour moi dans l'écriture, quelqu'un qui avait un sens politique aussi, qui a décidé pendant la guerre d'arrêter de jouer, simplement de ne jouer qu'en zone libre, dans de petites salles, et d'avancer à mesure que que les Alliés libéraient les pays. Et on le remarque tout à fait en reprenant la chronologie. On ne vient pas lui donner comme ça une portée politique. Elle est réelle et elle est même avancée par Ginette Neveu.
Alors on continue dans la Constellation, tisser des liens avec Isaac Stern et ce violon que joue Renaud Capuçon. Racontez-nous ça.
Parmi les belles histoires qui ont pu avoir existé après l'apparition du roman, entre autres, le roman s'intéresse à l'histoire de deux violons, du Guadagnini et du Stradivarius de Ginette Neveu, et de la perte des deux, mais une espèce d'histoire un peu mystérieuse autour du Stradivarius. Et Étienne Vatelot avait été celui qui avait avait authentifié l'archet puis une partie du violon. Il l'avait authentifié en direct à la télévision lors d'un grand échiquier où la volute était revenue dans des conditions rocambolesques. Et sur scène, ses amis lui rendaient hommage et parmi ses amis, vous aviez Stern. Et ce violon qu'il tient dans cette émission, j'ai eu la chance de participer à un concert hommage lecture à l'Opéra de Nancy organisé par le Livre sur la Place où nous avons rendu hommage à Étienne Vatelot et la coïncidence ultime était que finalement la méditation de Thaïs qui était jouée par Renaud Capuçon était interprétée avec le violon de Stern lui-même.
Donc
vous aviez, vous aviez cette double présence comme ça de Stern par son violon et
donc Vatelot aussi.
Vatelot aussi.
On va aller écouter cette méditation de Thaïs qui se situe au deuxième acte de l'opéra Thaïs. Alors ça, cela s'écoute normalement rideau fermé, donc c'est très bien à la radio, dans le recueillement. La méditation accompagne la prière de Thaïs, pleine de volupté et d'inflexion extatique. La voici donc interprétée par Renaud Capuçon. Le doux son de Renaud Capuçon au violon avec l'Orchestre Philharmonique de Chambre allemande de Brême sous la direction de Daniel Harding. C'était donc la méditation de Thaïs de Jules Massenet.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors, Adrien Bosque, je crois que vous vouez une véritable passion pour Ravel, à la fois, on le comprend, en s'agissant de correspondance, Ravel est certainement un compositeur qui va bien aux mots aussi.
Il va bien aux mots et sans doute c'est un des compositeurs qui a été le plus traité. Enfin moi, je entre autres, que ce soit Ravel, mais un de mes livres, un de mes grands souvenirs de lecture récents a été le Ravel des Schnauz, en partie, et aussi pour cette relation étonnante entre Paul Wittgenstein et Ravel pour le concerto pour main gauche, et puis évidemment pour toute la description autour de la vie de Ravel, mais de la description même du boléro. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous retrouvez chez de nombreux écrivains, dont je me souviens d'un livre de Le Clésio, très beau, qui analysait d'une très belle manière le boléro et raconter cette cacophonie, je crois que ça s'appelait quelque chose comme Mélodie pour la fin et qui racontait la cacophonie finale et l'aspect effrayant du boléro dans ces dernières notes.
Alors on va écouter une
si
sonnette.
On peut appeler ça des notes puisque c'est surtout une pièce de rythme.
De rythme et de rythmes incessants. Alors je propose qu'on écoute une sonatine de Maurice Ravel, interprétée par Martha Argerich. Figurez-vous que on a commencé avec elle, on finit avec elle parce qu'il y a plein de coffrets qui sont réédités du travail de Martha Argerich, pianiste célèbre à mon avis qui doit vous plaire aussi, personnage haut en couleur et qui a toujours préféré pouvoir jouer avec d'autres. Mais la voici donc seule pour cette sonatine de Maurice Ravel pour finir cette émission de manière un peu endiablée.
Thank you.
Maurice Ravel, Sonatine, interprétée par Martha Argerich au piano, extrait du double CD, Martha Argerich Early Recordings. Elle joue Mozart, Beethoven, Prokofiev et Ravel. Ça vous a plu, Adrien Bosque?
Beaucoup, oui, merci.
De rien. Et puis, merci à vous d'être venu. Alors, je rappelle que Constellation, c'est sorti chez Stock. Et puis, vous êtes directeur fondateur des éditions du Sous-Sol. Et puis, vous êtes directeur adjoint au Seuil, c'est ça?
C'est ça.
Bah, écoutez, merci. Belle suite à vous.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Merci à Camille Poux-Jalaguier, Claire Destacan, Alexandra Ramos da Silva. À la technique, c'était Charles Danet aujourd'hui. Demain, nous recevrons Robin Renucci. Et puis, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site de franceinter.fr. Et figurez-vous que même qu'elle est rediffusée pendant la nuit, cette émission à 3h du matin, je crois.